Les menaces d'attaques terroristes dans les quatre coins du continent africain n'ont pas eu l'effet désiré par les Occidentaux et c'est pourquoi ils cherchent maintenant le moyen de non seulement saper les alliances intra-africaines qui se mettent en place au sein du continent, mais également à placer les pays qui sont partisans d'un règlement des problèmes africains par les Africains dans le collimateur. Au lieu de demander plus d'aide et des arrivées massives de troupes militaires occidentales, les pays africains resserrent plutôt les liens entre eux pour faire face aux attaques terroristes. Outre les pays de la Corne de l'Afrique ou encore de l'Afrique de l'Ouest, les pays qui longent la côte du golfe de Guinée sont lancés dans ces alliances intra-africaines. Le nouveau chef d'état-major de l'armée du Nigeria a été reçu par le ministre camerounais de la Défense ce 1er avril, Lucky Irabor. Le nouveau chef d'état-major de l'armée nigériane et à la tête donc, d'une délégation nigérienne a été reçu en audience par le ministre camerounais de la Défense, Joseph Betty Assomo. Le Cameroun et le Nigeria sont des amis de longue date et nous connaissons les difficultés que traversent le nord du Cameroun et le nord du Nigeria. Et de ce fait, j'ai été nommé avec certains de mes collègues à la tête de l'armée du Nigeria. C'est donc de notre responsabilité de relever le défi et c'est dans cette optique que je suis venu rencontrer mes collègues camerounais pour qu'on travaille ensemble, a confié à la presse le général de l'armée. La rencontre entre les délégations camerounaises et nigérianes a eu lieu à huis clos, ainsi que l'audience accordée à la délégation nigérienne en matinée par son homologue camerounais, le chef d'état-major, le général d'armée René-Claude Meka. Toutefois, renseigne le journal, Joseph Betty Assomo, au cours de la séance des questions orales des députés aux membres du gouvernement devant la représentation nationale ce même jour, traçait déjà les grandes lignes de la visite de la hiérarchie militaire du Nigeria au Cameroun. Nous allons voir comment resserrer notre coopération dans la lutte contre Boko Haram et aussi la migration des menaces terroristes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et là aussi, nous avons des soucis communs. Les menaces étant des deux côtés, nous fédérons nos efforts, a indiqué le patron de la défense, dont les propos sont relayés dans les colonnes du journal. Les deux pays partagent une longue frontière de 1200 km, difficile à contrôler, ce qui peut faire le nid des activités criminelles en tout genre. Donc, on était déjà habitué à la contrebande, tous azimuts. La nouvelle trouvaille est maintenant le bruit de la naissance d'un mouvement rebelle armé dont les publications vidéo sur les réseaux sociaux ne font aucun mystère sur leurs intentions avouées de marcher sur Yaoundé. On peut constater que le Cameroun est très présent dans ce genre d'initiation. Donc, d'ailleurs, les pressions américaines montrent bien que le Cameroun se trouve dans le collimateur et que le retournement de veste du président Paul Biya et de son gouvernement n'est pas très apprécié par notamment Paris et Washington. D'ailleurs, ce genre d'alliance passe généralement à la trappe dans les médias mainstream, ce qui reflète bien que les intérêts sont sapés. En effet, Washington et compagnie, avec entre autres la France, ont décidé de prendre le monopole du golfe de Guinée et les pays d'Afrique qui longent cette côte ne sont pas vraiment pour. Mais la communauté internationale et surtout ses instances ne pointent jamais du doigt la mise en place des plans des États occidentaux sans aucune approbation des gouvernements africains concernés. Certes, le but actuel de la manœuvre occidentale, c'est également de prendre possession complète des pays de la côte africaine. Et pour cause, le fait que le patron de la DGSE française avait ciblé la Côte d'Ivoire et le Bénin était une manière de dire que tous les pays de la côte, essentiellement, donc ceux qui ne se plient pas aux règles occidentales, sont visés. Le Cameroun donc, est dans le collimateur et le Cameroun et la Guinée équatoriale se sont déjà alliés pour déjouer des exactions des pirates dans le golfe de Guinée. Ce fut un succès, ce qui fait que ce processus prend de plus en plus d'ampleur et les alliances se multiplient de manière exponentielle. Et c'est exactement ce que redoutaient les pays occidentaux et c'est pourquoi le Cameroun et notamment la Guinée équatoriale sont dans le collimateur et sont victimes de tentatives de coups d'État qui sont toujours déjouées. Après le massacre dans l'ouest du pays, l'attaque du palais présidentiel à Niamey juste avant l'investiture du président nigérian fraîchement élu Mohamed Bazoum, c'est maintenant le sud qui est touché. Les quatre militaires nigériens ont été tués et trois autres ont été blessés samedi dans une attaque de Boko Haram à Difa dans le sud-est du Niger, a rapporté une source militaire. Et face à l'ampleur des attaques, toute la région de Difa est placée maintenant sous l'état d'urgence. Mise en place par les pays riverains du lac Tchad, Cameroun, Nigeria, Niger et Tchad, la force forces multinationales mixtes appuient les armées nationales des différents pays dans la lutte contre Boko Haram. Une initiative africaine qui peut apporter beaucoup de résultats à condition que cela n'empiète pas dans les plates-bandes de Barkhane. En effet, une fois que les armées nationales africaines ont entamé une initiative de sécurisation, il est clair que les médias mainstream s'emparent de cette initiative pour mettre en avant des crimes en tout genre sans jamais mettre en avant les avancées des armées africaines. Ici, c'est le contingent militaire de 1200 soldats que le Tchad a dû envoyer combattre donc le terrorisme dans la zone des trois frontières qui est visé. Les médias n'ont pas encore fait état des résultats quant à la présence de ce contingent militaire, mais par contre, pour ce qui est de saper les divisions intra-armées africaines, ils sont en première ligne. Étant donné que les États du Sahel ne peuvent aucunement compter sur Barkhane et compagnie, les troupes armées intra-africaines restent la meilleure solution, mais en plus, elles apportent des résultats. Actuellement, le contingent de 1200 militaires tchadiens envoyés dans la zone des trois frontières est maintenant dans le collimateur des médias mainstream. En effet, ces médias n'ont pas hésité à faire part des cas de viol imputables à certains éléments de l'armée tchadienne. D'ailleurs, l'état-major général des armées du Tchad a annoncé samedi avoir appris avec indignation des cas de viol imputables à certains éléments appartenant au 8e bataillon de la force conjointe du G5 Sahel basé à Terra au Niger. Des mesures conservatoires ont été prises pour suspendre les présumés coupables d'une part et ouvrir immédiatement une enquête aux fins de situer les différentes responsabilités d'autre part, informe le général de brigade. L'état-major des armées condamne ces actes ignobles et se désolidarise totalement de ce comportement indigne. Il présente ses compassions aux victimes et à leurs familles respectives. Des sanctions énergiques seront prises lorsque l'identité et la culpabilité des présumés coupables seront établies à l'issue de l'enquête, assure l'état-major des armées qui rappelle que la mission régalienne des forces de défense et de sécurité est de protéger en tout lieu et toutes circonstances les personnes et les biens. Aucun dérapage ne saurait être toléré par la hiérarchie militaire. Les soldats tchadiens sont arrivés à un moment où l'on assiste à une recrudescence d'attaques terroristes meurtrières dans la zone et le lancement des bases de la force Takuba. En témoigne donc la boucherie humaine qui a eu lieu dans la région de Tillaberi en territoire nigérian qui, en l'espace d'une semaine, a coûté la vie à plus de 200 civils. Cela dit, tout en réaffirmant son hégémonie militaire dans la sous-région, le président tchadien Idriss Déby l'envoi de ce contingent dans une zone hautement hostile montre ainsi que les Africains peuvent protéger les Africains. D'où la nécessité pour les dirigeants du continent de s'unir pour mettre sur pied une armée africaine avec des troupes d'élite et des forces spéciales à même de faire face au terrorisme qui ne connaît pas de frontières. C'est du reste l'appel de pied qu'avait lancé le Sénégalais le Cheikh Tidiane Gadio à l'issue du sommet de N'Djamena. Nkrumah donc voulait dès 1963 une armée africaine et nous avons attendu 58 ans plus tard sans mettre en œuvre sa directive. Nous devons enfin répondre à son interpellation. Il est donc temps de passer de la parole aux actes. C'est à ce prix et seulement à ce prix que nous pourrons vaincre le terrorisme qui aujourd'hui, plus qu'hier, se nourrit des divergences en tout genre installées par les puissances occidentales. Barkhane se cache maintenant sous la couverture de la Takuba. Après la visite de deux jours de la ministre française des armées, Florence Parly, qui intervient quelques heures seulement après la publication d'un rapport de la MINUSMA soulignant que l'armée française avait commis une bavure lors du bombardement aérien à proximité du village de Bounti le 3 janvier, tuant 19 civils à un mariage, ce que Parly réfute avec vigueur, alors que le rapport constitue la plus grave mise en cause d'une opération française par les Nations Unies depuis le début de l'engagement de Paris au Sahel. La publication de ce rapport intervient également après une autre bavure impliquant le meurtre de 6 jeunes tués dans le nord-est du Mali dans une frappe décrite par Barkhane comme visant des terroristes alors que les locaux parlent de chasseurs tués alors qu'ils traquaient le gibier. Mais la visite de Parly ne visait pas seulement à démenti du dit rapport, mais plutôt le lancement d'un laboratoire pour l'Europe de la Défense dans la base opérationnelle de Meneka. Barley et son homologue tchèque ont donc inauguré le poste de commandement de la Task Force Takuba afin d'apporter une couverture aux exactions de Barkhane dans le Sahel et pour que la traque contre les résistants et la population, notamment malienne, puisse continuer sans autre qu'une complication juridique. Outre le matériel hyper sophistiqué qui permet donc à la France, mais également maintenant à l'OTAN, de pouvoir non seulement tester leurs armes destinées après donc à la vente, surtout dans les pays du Moyen-Orient qui se trouvent pour la plupart dans les mêmes conditions arides et désertiques que le Sahel, Barkhane tente de se dissimuler aussi derrière cette couverture européenne pour contourner le sentiment de haine des Maliens à leur encontre. Pour l'heure, la participation encore timide à Takuba va s'accroître visiblement et les Italiens vont arriver avec leur armada de 8 hélicoptères pour monter un système d'évacuation. L'engagement des Danois, Portugais, Grecs, Slovaques donc, et peut-être des Ukrainiens hors Union européenne est dans les tuyaux selon le cabinet de Florence Parly. La sécurité de l'Europe a confié le ministre tchèque donc, à sa collègue française, se joue sur son flanc Est avec la Russie, donc, et sur son flanc sud, et nous devons être solidaires, a-t-il affirmé. En attendant, les armées nationales sahéliennes sont toujours envoyées à la boucherie. Les bases militaires nationales sont toutes visées afin de donner le monopole à cette fameuse Europe qui se trouve sous l'égide de Paris maintenant. Au Mali, c'est 4 casques bleus tchadiens qui sont tués dans une attaque terroriste et 30 soldats tués dans le nord-est. Au Niger, c'est la population qui est visée principalement. Les informations font également état de 4 soldats nigérians tués dans le sud-est à Diffa. L'invasion est forte et il serait temps que les pays d'Afrique se soudent afin de mettre en place des alliances intra-africaines, mais surtout une armée africaine qui pourra non seulement déloger les bases terroristes dans cette zone des trois frontières, mais mettre également à la porte les troupes d'occupation occidentale afin de libérer le continent africain de ces invasions massives placées sous la fausse bannière de la lutte contre le terrorisme.
Le ministre ghanéen des Terres et Ressources Naturelles, Hon Samuel Abou, a révélé que le Ghana et le Burkina Faso constitueront une équipe technique conjointe pour, entre autres, faciliter les opérations minières pour le progrès mutuel des deux pays. Il a déclaré que le Ghana était prêt à collaborer avec le Burkina Faso pour l'exploitation des ressources naturelles dans leurs pays respectifs, pour le bénéfice ultime de leur population. Le ministre a indiqué que la fuite des capitaux affectant le Burkina Faso et le Ghana dans le domaine minier est inquiétante et nous devons travailler pour la résoudre. Samuel Abou Jinapor l'a déclaré lorsque le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières du Burkina Faso, le docteur Bachir Esmaïl Ouedraogo, l'a appelé à Accra. Il a soutenu que les relations entre le président du Ghana et son homologue burkinabé renforcera encore les relations bilatérales entre les deux nations. Djibouti jouit officiellement des capacités de haut débit du câble DAR 1, le huitième du pays. Il y a 5 ans, la société télécom publique a promis aux populations de Djibouti un meilleur accès à l'Internet de haute qualité. C'est désormais chose faite, une bonne nouvelle pour le pays qui fait de sa transformation numérique une priorité. L'opérateur historique des télécommunications de Djibouti, Djibouti Telecom, a officiellement mis en service son extension du câble sous-marin de fibre optique Djibouti Africa Regional Express 1, DAR 1, le lundi 29 mars. L'infrastructure télécom qui fournit une capacité de 36 terabits contribuera au renforcement de l'offre de connectivité à haut débit dans le pays. Il s'agit d'une nouvelle étape dans la stratégie de notre gouvernement visant à faire de Djibouti une plaque tournante pour les systèmes de câbles internationaux, l'atterrissage et l'hébergement de plus de 8 câbles à Djibouti a donné à notre pays la précieuse distinction d'être le pays le plus connecté et un centre technologique pour l'Afrique subsaharienne, a déclaré le ministre de la Communication, des Postes et Télécommunications. Le projet DAR 1 a été initié en 2016 avec l'ambition de révolutionner l'offre de connectivité dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est et du Moyen-Orient. Mis en service en février 2021, il est le fruit de la collaboration entre plusieurs opérateurs télécoms, notamment Télé Yémen, Télésom Company, Ormuz Telecom, Somalia, Golis Telecom et Somtel. Long de 4900 km, le câble construit par TE Subcom atterrit dans les villes de Dar es Salaam en Tanzanie, Mombasa au Kenya, Mogadiscio en Somalie, Bosaso à Puntland, Berbera à Somaliland, Moka au Yémen et Djibouti City. Les capacités data du câble DAR 1 représentent un atout technologique supplémentaire pour le pays qui est actuellement engagé dans sa transformation numérique à travers divers projets, notamment celui initié en 2018 avec l'appui financier de la Banque mondiale et portant sur l'accès en ligne aux services publics par les usagers. Côte d'Ivoire. Un biomédecin-chercheur annonce la mise sur pied d'une molécule qui guérit la COVID-19, connue des autorités du pays qui reste sans promotion. Diamana Jean-Yves, biomédecin-chercheur-inventeur, a mis sur pied une molécule à base de sirop dénommée BJ12 qui lutte contre la COVID-19. Cette solution 100% nature, semble-t-il, a déjà guéri plusieurs malades et immunisé plusieurs personnes puisqu'elle aurait à la fois des vertus préventives et curatives. Malheureusement, cette molécule n'est pas vulgarisée par les autorités ivoiriennes. Le chercheur inventeur a affirmé à la presse que les démarches entreprises dans ce sens sont restées vaines. L'Afrique a des compétences. Je voudrais rassurer les Africains dans ce combat de positionnement que l'Afrique a des compétences. La COVID-19 n'est pas une maladie incurable. Depuis le 15 mars 2020, nous proposons BJ12 solution naturelle et qu'à deux reprises, nous avons saisi l'État de Côte d'Ivoire par le biais du ministère de la Santé les 18 et 25 mars 2020 en vue de proposer cette molécule dans le Gotha des Nations. Nous n'avons pas eu de suite favorable jusqu'à ce jour, a expliqué Diama Jean-Yves. Selon lui, même si les autorités refusent de faire la promotion de sa molécule, les malades qui l'ont utilisée sont tous guéris. Il a pris l'exemple du président du Conseil africain du tourisme qui a témoigné publiquement qu'il avait retrouvé la guérison après avoir utilisé la molécule. L'État est conscient que des personnes sont guéries en prenant la molécule BJ12. Malheureusement, il y a un manque de volonté politique. C'est le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui doit faire valider le médicament par l'OMS, a déploré le chercheur. Vu l'augmentation des cas de COVID-19 ces derniers temps, il décide de se rapprocher davantage des populations en ouvrant de nouvelles agences à Abidjan. Guinée-Sénégal, Alpha Condé adresse un message à Macky Sall. S'achemine-t-on vers la décrispation de la situation entre la Guinée et le Sénégal? En tout cas, le président guinéen a adressé un message dans ce sens à son homologue sénégalais à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Dans ce message lu samedi soir à la télévision nationale, Alpha Condé a félicité Macky Sall et le peuple sénégalais tout en s'engageant à œuvrer pour le raffermissement des relations entre les deux pays. Je voudrais vous assurer que ma ferme détermination à œuvrer de concert avec vous pour le renforcement et la diversification de nos liens d'amitié et de fraternité, unissant si heureusement nos deux pays, a dit Alpha Condé. Cette sortie du chef de l'État guinéen intervient à un moment où les relations sont très tendues entre la Guinée et le Sénégal. Depuis octobre dernier, la frontière entre les deux pays est fermée par une décision du gouvernement guinéen. Il y a quelques jours, Alpha Condé a déclaré que toutes les tentatives de déstabilisation de son régime sont préparées à Dakar, la capitale du Sénégal. Il ne s'est même pas privé de se moquer de Macky Sall suite aux remous qui ont secoué récemment son pays. La récente sortie de la CEDEAO qui a recommandé aux deux pays de négocier en vue de rouvrir leurs frontières communes est-elle à l'origine de ce changement de ton de la part du président guinéen ?